Radio Capi, Grand Témoin. Merci de rester fidèle à Grand Témoin, Bernard Prévost, ambassadeur de France en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, l'invité des Grands Témoins, il n'a pas refusé notre invitation. Nous lui disons merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur.
C'est avec plaisir.
Bernard Prévost, vous avez totalisé 65 ans le 15 mars dernier. Quelle est la ville que vous avez vu naître ?
Lille, dans le nord, près de la frontière belge.
En grandissant, vous étiez quel genre d'enfant ?
Oh, j'étais un enfant assez sage, je crois, et assez rêveur. Je me projetais dans l'avenir, j'imaginais quantité de métiers, quantité de voyages pour sortir un peu de la routine du nord de la France. Et c'est ce qui m'a aidé à grandir. J'ai perdu ma maman très très jeune, et donc ça pousse peut-être un peu de solitude et de réflexion personnelle plus approfondie.
Vous avez des frères et des sœurs, monsieur l'ambassadeur ?
Oui. J'ai 4 frères. Je suis l'aîné d'une fratrie de 5 garçons.
Pas de filles dans votre famille ?
Pas de filles dans ma famille.
Dommage,
ça
hein,
m'a
quand
manqué.
Même.
Ah oui.
Vous avez un certificat d'études littéraires générales, mais aussi un diplôme de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Vous l'obtenez après votre certificat d'études littéraires ?
Oui, c'est-à-dire que après les études secondaires. Le baccalauréat, ce que vous appelez le diplôme d'État, ben j'ai préparé dans une classe spéciale l'entrée à l'Académie militaire de Saint-Cyr, à l'école spéciale militaire pour devenir officier. Mais j'étais plutôt littéraire, il y avait plusieurs options, les scientifiques, les linguistes, les historiens. Moi j'étais plutôt histoire-géographie.
Et qu'est-ce qui vous a attiré dans l'armée, Bernard Prévost ?
Ben, je crois que cette vocation m'est venue très tôt, et j'étais rêveur, je rêvais de grands espaces, de grandes chevauchées, j'étais frappé par les grandes aventures des colonisateurs, faits d'herbes, et puis l'épopée durant la Deuxième Guerre mondiale, de Leclerc à travers toute l'Afrique, etc. C'est ça qui m'attirait, de mener une vie d'aventure, une vie collective avec les hommes, de commander, d'organiser. Vous savez, ce sont des rêves d'enfant que j'ai pu mettre en pratique dans mon jeune âge de ma vie professionnelle. Et c'est une expérience tout à fait unique. J'ai eu beaucoup de chance.
Et votre père vous a encouragé à travailler dans l'armée ?
Non, pas du tout, justement. Parce que quand je suis rentré dans l'armée, c'était à la fin de la guerre d'Algérie. Et mon père m'a dit, mais tu es complètement sot de partir dans cette voie. C'est terminé. Bon, la décolonisation est en route. Et bon, l'armée n'a plus de rôle à jouer. Et bon, peut-être un peu par esprit d'opposition ou par volonté de m'affirmer, j'ai persisté dans mon choix et j'ai dit à mon père, mais non, mais ça m'intéresse, même si il n'y a plus d'aventure coloniale, c'est pas ça qui m'intéresse d'abord, c'est le style de vie dans l'armée, le commandement des hommes, la vie collective, la vie sportive également, et je ne regrette pas cette expérience.
Vous êtes officier de l'armée des terres de 1964 à 1978, mais de 1978 à 1980, vous êtes directeur du cabinet du préfet de Finistère. J'espère que je prononce bien Finistère.
Tout à fait.
Et qu'est-ce qu'on a...
C'est le bout de la terre. À l'Occident, c'est la pointe de l'Europe.
Et qu'est-ce qu'on entend par préfet, monsieur l'ambassadeur ?
Ben, si on peut faire une comparaison avec la vie au Congo, c'est l'équivalent d'un gouverneur, mais ici, le gouverneur est élu. Représente certains intérêts de l'État et les intérêts de la collectivité, de la province, tandis qu'en France, le préfet, il est nommé, c'est un fonctionnaire nommé par le gouvernement qui met en œuvre toute la politique du gouvernement à côté des élus, des maires et des présidents de départements ou des présidents de régions. Le préfet, par exemple, est responsable de la police, de la sécurité, il est responsable de l'action sanitaire et sociale. Voilà un certain nombre de choses qu'il en charge. Et puis de veiller à la protection de l'environnement pour les tâches de l'État.
Bernard Prévost, pourquoi décidez-vous de quitter l'armée ?
Parce que j'estimais que j'avais vécu le meilleur dans l'armée, comme jeune lieutenant, jeune capitaine, et j'avais envie de faire autre chose. Je crois que l'expérience militaire m'a beaucoup aidé, d'ailleurs, dans le nouveau métier. Je me suis reconverti dans l'administration civile, là aussi, avec la volonté de servir mon pays, de servir mes concitoyens.
Vous travaillez dans dans la préfecture pendant 13 ans et de 1993 à 1995, vous êtes directeur de l'administration pénitentiaire. En quoi consistait votre travail?
Ah bah écoutez, là ça a été une expérience extrêmement riche et difficile. J'étais très surpris un jour quand le ministre de la Justice m'a appelé. J'étais préfet dans un département du centre de la France et il m'a dit « Monsieur Prévost, je pensais à vous pour être le directeur de l'administration pénitentiaire. » Je lui ai répondu « Mais monsieur le ministre, je n'ai pas de compétences particulières et je suis préfet, je ne suis pas dans mon département depuis très longtemps. » Il m'a dit « Si, je veux me mettre un préfet à la tête de l'administration pénitentiaire, on m'a parlé de vous. » j'ai besoin que vous veniez, venez me voir, etc. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Alors ça consiste en quoi? Ça consistait à diriger les 185 prisons françaises, mais aussi les centres d'éducation surveillée pour les jeunes, les centres de semi-liberté avec des détenus qui peuvent travailler dans la journée, mais rentrer dans l'établissement fermé le soir. Et puis les 185 établissements sont divisés en plusieurs catégories. Il y a les établissements très durs, les maisons centrales pour les grands criminels. Là, les conditions d'enfermement sont très sévères. Et puis, il y a les simples maisons d'arrêt où on retrouve les prévenus qui ne sont pas encore jugés et les condamnés pour des petites peines allant jusqu'à 3 ans. Et je peux vous dire que la tâche pour le directeur de cet ensemble est quand même assez considérable parce qu'il n'y avait pas de jour où il n'y avait pas de problème. Des évasions, des bagarres entre détenus, des...
pas être une tâche facile pour
vous.
Non,
ce n'était pas une tâche facile, mais sur le plan humain, c'était extrêmement riche parce qu'il se passe parfois dans l'intimité des personnes, la volonté de se ressaisir, de se réinsérer dans la société, de redémarrer dans de meilleures conditions, de se réinstaller avec sa famille. Oui, vraiment, sur le plan humain, c'était une expérience riche.
Vous restez à la tête de la gendarmerie pendant 5 ans, donc je dirais de 1995 à 2000, et de 2000 à 2006, on vous retrouve encore une fois dans la préfecture.
Oui, ben parce que, écoutez, moi j'ai été au service de mon pays et je me suis toujours rendu, je n'ai jamais choisi mon poste, je me suis rendu là où on me demandait d'aller. Au bout de près de 5 ans de responsabilité à tête de la gendarmerie, on m'a demandé de revenir dans mon métier normal, celui de préfet. Et là, c'est le Premier ministre, M. Jean-Pierre Raffarin, qui m'a appelé en me demandant de venir comme préfet de région à Poitiers, ce qui a été une très grande expérience. J'ai d'ailleurs eu du mal à quitter parce que au bout d'un certain temps, je lui ai demandé de partir à l'étranger pour l'expérience que je voulais faire, que je mène ici au Congo comme ambassadeur. Il m'a toujours tout de suite donné son accord, mais les choses ont traîné un peu parce qu'il me laissait pas partir tout de suite. Mais en 2006, j'ai pu partir et vous rejoindre ici à Kinshasa.
Comment avez-vous accueilli cette nomination?
Oui, j'avais le désir de terminer mon parcours professionnel comme ambassadeur. Pour cela, j'ai exprimé mes désirs, mais je ne savais pas où j'allais atterrir. On m'avait dit à un moment donné que c'était possible, qu'on allait me nommer, les choses traînaient un peu. Et puis un beau jour, on m'a appelé de la présidence de la République en disant « Monsieur Prévost, vous allez être nommé à Kinshasa ». Ah, j'ai dit « Je suis très content parce que je ne connais pas Kinshasa, je ne connais pas la RDC, mais c'est en Afrique, je connais un peu l'Afrique quand même et je suis très heureux de rejoindre un très grand pays qui a connu d'immenses difficultés et qui, selon moi, essaye de s'en sortir, eh bien, j'apporterai ma contribution, si je le peux, en rejoignant Kinshasa. Et ce qui est arrivé à partir du mois d'août 2006.
Monsieur l'ambassadeur, est-il marié?
Oui, je suis très heureux d'avoir connu mon épouse quand j'étais jeune officier, d'ailleurs. C'est la sœur d'un de mes camarades officiers et nous sommes mariés depuis 1972. Nous avons eu 4 enfants et je suis très heureux de vivre avec mon épouse. Le seul regret, le seul reproche qu'on peut me faire, c'est que je suis peut-être trop pris par mon travail et ma tâche professionnelle. Et
vous n'avez pas assez de temps pour votre épouse et vos enfants.
Voilà. Mais bientôt, quand je terminerai ma tâche professionnelle, je crois que je serai plus disponible pour elle et pour voyager, pour m'occuper des enfants et des petits-enfants.
Puisque vous en avez déjà?
Oui, combien? 3 petits-enfants.
Radio Capi, grand témoin.
Grand Témoin vous présente aujourd'hui Bernard Prévost, ambassadeur de France en République démocratique du Congo. Alors, monsieur l'ambassadeur, aidez-nous à comprendre comment quelqu'un qui a fait l'école militaire, qui a travaillé dans la préfecture, devienne ambassadeur par la suite, et puis dans un pays comme la RDC.
Bien, écoutez, vous me parlez de mon expérience passée, militaire, préfet, pour être diplomate, c'est vrai que ça peut surprendre, mais dans un pays en pleine reconstruction comme la République démocratique du Congo, où les problèmes de sécurité, de réforme de l'armée, de réforme de la police se posent avec beaucoup d'acuité, j'ai la prétention de dire que mon expérience passée m'a sans doute aidé, parce que je connaissais quand même un peu, même assez bien le domaine de l'armée, le domaine de la police, le domaine de l'organisation administrative dans un pays qui est en train de voter une loi sur la décentralisation, de réorganiser ses provinces, etc. Je crois que cette expérience passée m'a aidé, parce que le poste de diplomate ici n'est pas un poste courant comme si on servait dans un pays de la vieille Europe.
Monsieur l'ambassadeur, vous êtes arrivé en RDC à un moment spécial, notamment marqué par l'organisation des élections. Quelles étaient vos premières impressions?
Écoutez, j'ai d'abord été extrêmement frappé le dernier dimanche de juillet 2006 quand mon prédécesseur m'a envoyé par courrier électronique les photos prises le matin même des files d'attente devant les bureaux de vote. J'ai été vraiment très ému, je vous le dis très sincèrement, par ces centaines de mètres de files d'hommes et de femmes qui attendaient depuis 5 heures du matin pour pouvoir effectuer leur devoir électoral et qui avaient la chance de pouvoir mettre un bulletin dans l'urne, ce qui n'était pas arrivé depuis des années au Congo. Alors, lorsque je suis arrivé, le premier tour s'était effectué et dans de bonnes conditions. Et j'ai fait ma tournée de présentation. J'ai d'abord présenté mes lettres de créance au chef de l'État. J'ai rendu visite au vice-président de la République dans ce régime de transition. Et puis, il est arrivé très vite un épisode un peu rude. Vous savez qu'après la proclamation des résultats du premier tour, il y a eu quelques échauffourées dans la ville. Et les représentants de la communauté internationale ont décidé de se diriger vers le chef de l'État et vers son outsider Jean-Pierre Bemba pour demander de calmer le jeu, que les forces militaires rentrent dans l'ordre et qu'il n'y ait plus de tirs dans la rue, et qu'il fallait mener le processus électoral jusqu'à son terme. Et le 21 août, je crois, nous avons été bloqués dans la villa de M. Bemba au moment où nous venions le voir pour demander que sa milice rentre dans le rang et que les tirs cessent. Et nous avons été bloqués par des tirs, puisqu'il y a eu encore des échauffourées à ce moment-là.
Et en ce moment-là, excusez-moi, monsieur l'ambassadeur, comment vous vous étiez senti en ce moment-là?
Pas très à l'aise, je vous le dis très franchement.
Vous n'aviez pas peur?
Ça tire dans tous les sens. Monsieur Bemba venait de me dire, quand j'étais rentré dans sa villa, alors, monsieur l'ambassadeur de France, c'est votre baptême du feu? Et j'avais répondu en souriant non, parce que j'ai déjà entendu ça quand j'ai j'étais jeune militaire, mais je ne m'attendais pas à ce qu'une demi-heure après, des tirs nourris s'effectuent à proximité de cette demeure. Mais les forces de la MONUC, les forces de fort, justement, nous ont dégagé dans la soirée. Il n'y a pas eu de mal, il y a eu simplement un peu de peur. Et donc ça a été une entrée en matière assez forte. Il m'a incité à toujours être très déterminé pour rechercher chaque fois que c'était nécessaire la paix dès que des incidents se produisaient, parce qu'il y en a eu par la suite assez souvent jusqu'au mois de mars de 2007.
La France, votre pays, a toujours été compté parmi les partenaires de la RDC. Peut-on avoir une idée de la politique africaine de la France vis-à-vis de la RDC?
Oui, je vais être très, très franc. Il faut dire que la France a toujours mené une action assez forte en direction de ses anciennes colonies en Afrique, mais peut-être un peu moins directement avec la République démocratique du Congo, puisque le colonisateur était à l'époque, avant l'indépendance, la Belgique. Donc nous avons été toujours présents en République démocratique du Congo, tant sur le plan politique, le plan diplomatique, le plan de la sécurité. Et nous avons toujours été fidèles, ça je le rappelle souvent à tous les dirigeants, quels que soient les aléas de l'histoire. Mais sur le plan du développement, sur le plan des entreprises, nous étions peut-être moins présents. Je crois que les choses sont en train de changer. Et j'en veux pour preuve les trois visites ministérielles qui ont eu lieu durant ce premier semestre, avec M. Kouchner, ministre des Affaires étrangères en janvier, M. Borloo, ministre de l'écologie en mai, Mme Ramayad, secrétaire d'État aux droits de l'homme en juin, et puis le sommet, ça a été la visite officielle que vient d'effectuer le président Kabila à Paris. Il a été reçu par son homologue, le président Sarkozy. Je crois que la visite s'est bien passée, mais c'était une façon de montrer l'intérêt qu'avaient les deux pays à travailler ensemble. Et moi, j'ai eu la chance d'assister à tous les entretiens. J'ai noté avec grande satisfaction que le président Sarkozy répondait, je crois, à toutes les attentes du président Kabila. Le président Kabila a dit il faut continuer à nous aider pour la réforme de l'armée, de la police, pour que la sécurité du pays soit bien assurée. Et ça, le président Sarkozy l'a assuré de l'engagement total de la France et de l'Union européenne, puisqu'il assure la présidence de l'Union européenne durant ce deuxième semestre. Le président Kabila a demandé également le soutien de la France pour trouver les meilleures solutions avec les institutions monétaires internationales dans le cadre du désendettement. Là aussi, la réponse était très positive de la part du président Sarkozy. Nous allons vous aider à trouver la solution pour qu'en même temps, vous puissiez assurer les contrats que vous avez passés avec la Chine et qui font couler beaucoup d'encre, dit-on, et puis trouver les solutions avec les institutions monétaires internationales. La troisième préoccupation, président, vos entreprises françaises ne viennent pas assez au Congo. Là, le président Sarkozy a été affirmatif. D'abord, ça commence à bouger. Il y a des groupes qui veulent s'investir. Je vais leur dire d'accélérer le mouvement et j'ai l'intention de venir en réponse à votre invitation en début 2009, a dit le président Sarkozy, et je viendrai avec des chefs d'entreprise pour vous aider à développer les entreprises, à développer l'emploi dans votre pays.
Est-ce qu'on peut dire que les relations France-RDC sont au beau fixe?
Je crois qu'on peut le dire. Il y avait un peu d'attente de la part de l'État congolais. La France n'est pas assez présente. Les visites qui devaient avoir lieu n'ont pas pu se tenir depuis l'élection du président Sarkozy. Je crois que tout ça est très clair maintenant. Il y a vraiment une volonté affichée de la France qui assure la présidence de l'Union européenne d'être encore plus présente ici. Mais encore une fois, avec les Congolais, c'est les Congolais qui doivent mener le jeu, qui doivent arrêter leurs orientations, se mobiliser, s'investir totalement. La France n'est là que pour accompagner, soutenir avec les autres membres de la communauté internationale.
Depuis votre arrivée en RDC, monsieur l'ambassadeur, cela fait exactement 2 ans. Aujourd'hui, quel bilan dressez-vous de votre mandat?
Écoutez, c'est très difficile comme question parce que si on dit que tout va bien, c'est qu'on est plein d'orgueil pour dire je suis un excellent ambassadeur, etc. Et c'est pas du tout mon propos. Je voudrais simplement dire que je suis arrivé à un moment crucial, à un moment charnière, puisque je suis arrivé entre les deux tours des élections et que je crois que un certain nombre d'avancées ont pu se faire. Moi, j'ai souhaité, comme ambassadeur de France, puisque j'ai assuré la présidence locale de l'Union européenne depuis le début janvier à la place de la Slovénie, j'ai souhaité que l'Europe, la France et l'Europe soient vraiment très présents, respectueux de la RDC, des choix de la RDC, mais toujours disponibles pour les aider à avancer. Ce qui me laisse un peu insatisfait, c'est que la traduction pour l'ensemble de la population n'est pas encore là. On sait que la masse de la population qui a voté, qui a effectué ses choix de façon démocratique est dans une grande attente en disant il y a des lois qui sont votées, la paix revient progressivement, mais notre pouvoir d'achat n'augmente pas, les coupures d'électricité sont toujours là, les problèmes de scolarité se posent avec beaucoup d'acuité. Donc c'est ça qui me laisse insatisfait et on fait tout pour que le Congo puisse faire les bons choix de façon à ce que la population progressivement dans les années qui viennent voit vraiment son niveau de vie, la qualité de sa vie s'améliorer.
Alors monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'on peut connaître quelques-unes de vos réalisations pendant votre mandat?
Écoutez, moi, je ne vais pas être exhaustif, mais je voudrais simplement rappeler qu'en mars 2007, nous avons pu signer des accords de coopération avec nos amis congolais, ce qu'on appelle le document cadre de partenariat, le DCP, qui a été signé par la ministre française de la coopération de l'époque pour un engagement à peu près de 200 millions d'euros sur 5 ans, avec trois priorités, l'école, la santé et l'environnement. Et puis aussi, de façon transversale, la francophonie. Là, il y a un gros effort qui va commencer ici à la rentrée pour la formation des professeurs de français, la relance du réseau des alliances françaises pour que toute la population puisse mieux maîtriser la langue française. Et je crois que c'est très important dans le plus grand pays francophone d'Afrique et certainement du monde. Et puis, je vais citer quelques exemples qui m'ont fait très plaisir. C'est par exemple, le lancement du chantier d'approvisionnement en eau potable dans la cité de Kinshasa avec l'Agence française de développement. Voilà quelque chose de très concret dont la population a besoin, qui va apporter de l'eau à 400 000 personnes d'ici un an, de l'eau potable dans des bornes-fontaines avec des fontainiers. L'eau sera payée à un tarif tout à fait modeste. Et voilà des choses importantes qui vont éviter les corvées d'eau pour les femmes et les jeunes filles, qui vont permettre de boire de l'eau sans danger et donc d'éviter des maladies. Voilà des genres de progrès qu'on peut soutenir et la France est heureuse d'y avoir contribué. Je ne cite que ces exemples-là.
La France, votre pays, a pris la présidence de l'Union européenne pour le deuxième semestre 2008. Quelles sont les priorités que se fixe la France pour ce mandat à la tête de l'Union européenne?
La première priorité, c'est d'abord de lutter contre ce grand danger qui nous menace tous à travers le monde, le changement climatique. Qui fait que les déserts vont se développer, l'eau va manquer dans beaucoup de pays. Donc, un grand paquet environnement, protection de l'eau pour l'Europe, mais pour la planète entière. Et c'est le sens du voyage qu'a effectué Monsieur Borloo au mois de mai, à la veille de la présidence de l'Union européenne. Donc, première chose, l'eau, l'environnement. Deuxième chose, c'est le pacte européen sur l'immigration, pour que, non pas il y ait une forteresse infranchissable, mais qu'il y ait des échanges bien maîtrisés entre le continent européen et les autres continents, de façon à ce qu'on puisse accueillir des étudiants, des jeunes professionnels, mais que ces étrangers formés ou travailleurs puissent revenir dans leur pays et faire profiter leur pays de leur savoir-faire, de leurs études, de leurs diplômes. Il y a aussi une priorité, une troisième priorité, concernant l'agriculture. Alors ça, c'est sur le plan européen, mais ça a des répercussions sur l'ensemble du monde, avec la meilleure maîtrise des marchés pour protéger les paysans, et je pense aux paysans africains en particulier, pour qu'ils puissent vivre de leur culture. Et la quatrième priorité a trait à la sécurité européenne, mais en même temps, ça a des conséquences sur les zones à travers le monde où l'Europe intervient pour calmer le jeu, éteindre les incendies, je veux dire les conflits. C'est le sens des missions de réforme de l'armée comme ESSEC qui a vu son mandat prolongé à la demande du président Kabila pour continuer la réforme de l'armée congolaise.
Et vous pensez que la RDC peut en tirer profit?
Je le crois. L'Union européenne est ici très présente avec 12 ambassades, la Commission européenne, deux missions spécialisées ESSEC pour la réforme de l'armée, EPOL pour la réforme de la police. L'Union européenne en RDC, c'est 750 millions de dollars qui ont été attribués en 2007, ce qui est tout à fait ignoré. Et quand on dit ça, les responsables nous répondent, mais on ne le voit pas. Alors peut-être qu'il y a un effort de concentration à effectuer pour que les opérations soient mieux ciblées et pas saupoudrées et qu'une meilleure communication soit faite pour expliquer ce que fait l'Union européenne ici et ce qu'elle va continuer à faire.
Chefs d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Grand Témoin, le plaisir de vous faire découvrir Bernard Prévost, ambassadeur de France en République démocratique du Congo. Monsieur l'ambassadeur, cela fait 2 ans que vous travaillez en RDC. Vous vous êtes adapté facilement à la vie congolaise.
Oui, Je dois reconnaître que j'ai pas énormément de loisirs parce que représentant la France ici avec la présidente de l'Union européenne, je suis astreint à beaucoup de réunions, à beaucoup de rencontres, à beaucoup de rapports à faire, beaucoup d'échanges avec ma capitale. Mais quand même, j'essaye avec mon épouse, avec des amis, d'aller dans la cité, dans les petites guinguettes, dans les petits restaurants sympathiques où on mange une cuisine locale très très appréciable. J'aime écouter aussi la musique rythmée congolaise. Et puis le grand plaisir apaisant, c'est de pouvoir me promener avec mon épouse le long du fleuve Congo le soir au coucher du soleil. Dans le quartier de la Gombe, c'est vraiment féerique. Et quand je vois ce spectacle, je me dis que je verrai jamais ça en Europe. Et c'est vraiment une grande joie.
Vous avez sûrement appris quelques mots en lingala, monsieur l'ambassadeur.
Oh là là, ça c'est le piège. Hein. C'est le piège. Yambi.
Yambi.
Oui.
Yambi qui veut dire quoi?
Bonjour, je crois.
Bonjour en lingala, c'est mbote et pas yambi.
Et yambi.
Non, yambi c'est pas un mot lingala.
C'est pas botikala.
Non.
Si je peux vous dire botikala malamu.
Par exemple. Ça oui. Voti kalamalamu.
Bon. Oui, ça c'est du lingala.
Oui, ça c'est du lingala, mais pas yambi.
Pas yambi, non.
Radio Capi, grand témoin.
Bernard Prévost, nous sommes presque à la fin de notre entretien, mais avant de le clore, vous allez bientôt quitter la RDC. Et c'est quand exactement?
Eh bien écoutez, c'est dans quelques jours. Et je suis un peu triste de partir après ces deux années très intenses, très riches. Là aussi, c'est peut-être une question d'orgueil, parce qu'on pense qu'on va faire des tas de choses, qu'on va pouvoir faire progresser les dossiers, les chantiers, et puis on s'aperçoit qu'on est limité dans ses moyens, même si on a beaucoup de volonté, si on veut travailler avec d'autres, si on veut servir. Je crois que il faut admettre qu'on ne fait qu'apporter une petite pierre à l'édifice. Je crois que les choses sont améliorées globalement depuis deux années. La France, avec toute l'équipe de l'ambassade, a pu participer à cet élan nouveau, à ce redémarrage, à cette renaissance. Mais il y a tellement de choses à faire encore qu'on aurait envie de rester pour dire « mais j'ai pas terminé ma tâche ». Je crois qu'il faut avoir la modestie d'accepter ses limites, de savoir qu'il y a une fin pour tout et qu'il y a différentes étapes dans sa vie. Donc je vais rentrer le plus sereinement possible dans une dizaine de jours dans mon pays. J'aurai encore quelques mois à servir dans mon ministère d'origine avant d'arrêter mon activité professionnelle totalement, mais de continuer à suivre les affaires africaines par passion et avec mon cœur, et puis garder des contacts avec les amis congolais, parce que je me suis fait de vrais amis congolais dans tous les milieux, et ça c'est ce que je garderai au plus profond de moi-même.
Vous connaissez déjà votre remplaçant ?
Oui, il s'agit de Pierre Jacquemot, qui est ambassadeur de France au Ghana actuellement. Et je suis très heureux de pouvoir lui passer le relais.
Monsieur l'ambassadeur, après que la RDC s'est dotée des nouvelles institutions issues des élections, que pensez-vous de l'avenir politique de la République démocratique du Congo?
Sérieusement, moi je crois que le processus électoral a bien réussi jusqu'à maintenant. On sait d'où l'on vient, c'était le chaos total. Et après la transition, avoir pu réaliser ces élections présidentielles et législatives de cette façon, je crois que c'est tout à fait remarquable. Les institutions se mettent en place, tout le monde reconnaît que le Parlement fonctionne bien. Il a en son sein des hommes et des femmes de grande qualité, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et ça, c'est un acquis qu'il ne faut pas gâcher. Maintenant, les autorités congolaises sont en train de préparer les élections locales. Là aussi, il y a une grande attente pour que les gens puissent gérer leurs affaires chez eux, dans leur province, dans leur commune. Je crois que c'est très important de pouvoir réussir ces élections qui devraient avoir lieu dans le courant de l'année 2009. Puis ensuite, il va falloir penser aux élections de 2011. Mais d'ici là, je pense que beaucoup de progrès, je l'espère pour la RDC, beaucoup de progrès ont été accomplis. Mais je crois que le processus électoral doit toujours être gardé à l'esprit et que tout doit être mis en œuvre pour le respecter, respecter les échéances et faire en sorte que les élus, au niveau qui est le leur, puissent apporter le meilleur d'eux-mêmes. En tout cas, jusqu'à maintenant, on peut dire que c'est une opération qui a réussi.
Bernard Prévost, ambassadeur de France en République démocratique du Congo, vous êtes fait mandat. Avez-vous un message particulier à lancer à toutes les Congolaises et tous les Congolais qui nous suivent en ce moment?
Écoutez, malgré les difficultés du moment, malgré les difficultés observées partout, malgré la corruption qui demeure, le mauvais fonctionnement de certaines administrations, je crois que les Congolais ne doivent pas perdre espoir. Ils doivent s'appuyer sur les grandes richesses humaines du peuple congolais et sur les grandes richesses naturelles du Congo. Ils ont tous les éléments en main pour pouvoir avancer. La communauté internationale est prête à les aider, mais c'est aux Congolais de prendre en main leur destin. Donc, je suis plein d'espoir et je dis aux jeunes qui sont parfois accablés par les difficultés, ne perdez pas espoir, vous avez un avenir, on veut absolument vous soutenir pour que vous avanciez.
L'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, Bernard Prévost, était l'invité des grands témoins. Nous lui disons merci d'avoir participé à cette émission.
C'était avec grand plaisir et bonne chance à Radio Capi.
Merci beaucoup. Kéline Kouté vous a présenté cette émission. Patrick Kiasonga était à la technique. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous avez la possibilité non seulement de réécouter toutes les émissions passées des grands témoins, mais également vous pouvez nous écrire et voir toutes les photos de nos invités. Bonne suite de programme sur Radio Capi.